La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On est lundi 22 juin, c'est la midinale de Radio Piquet et c'est la deuxième partie, s'informer autrement. On va commencer avec Pierre, encore toi.
Ouais, non, désolé, hein, je suis le seul à avoir préparé des trucs aujourd'hui. Quoi.
Ah, ça va. Nous, on a une exclue après. C'est pas quand même
en plus,
pas
là,
pareil,
c'est
quoi.
Quand même un peu moyen préparé. Quoi, mais,
ah, putain.
Non, mais bon, j'espère que ça ira. Je sais pas si vous avez entendu, parce que ça a été assez peu... raconté toujours dans les médias traditionnels, mais là je vois qu'il y a des, ça y est, il y a une tribune dans Libération qui date d'hier, enfin voilà, ça commence à se dire un peu, mais le gouvernement israélien a demandé à son armée de se préparer pour une annexation,
une annexion.
ouais, j'ai vu tout à l'heure, je persistais à chercher sur Google annexation. Pour une annexion complète de la Cisjordanie, donc est déjà occupée hein, par pas mal de colonies illégales, donc en partie occupée, mais là le gouvernement israélien a demandé à son armée de se préparer à une annexion totale et complète le 1er juillet. Voilà, donc voilà où on est à peu près la Palestine, Israël. Et le dernier épisode d'un des podcasts de The Intercept, qui s'appelle System Update with Glenn Greenwald, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube de The Intercept, parle de ce sujet, quoi. Donc les System Update, là, avec Glenn Greenwald, en gros, c'est... présenté comme avec des invités, donc qu'on va voir. Là, c'est Omar Barghouti, un activiste infatigable de la cause palestinienne. Mais ces podcasts, en gros, c'est pendant au moins la moitié, à chaque fois, c'est Glenn Greenwald qui parle tout seul et qui, en gros, fait une sorte de revue de presse sur le sujet, qui donne aussi son opinion sur le sujet. Et ensuite, il y a le dialogue et l'interview avec les personnes qu'il a invitées. Souvent, il y en a plusieurs. Là, il y a juste Omar Barghouti. Donc, il présente un peu cette situation. Donc voilà, c'est en anglais. Hein, donc, j'ai essayé de noter, en gros, l'interview et j'essaye de vous la refaire. Je suis un peu lourd avec ça, mais je vous incite à soit apprendre mieux l'anglais pour pouvoir justement avoir accès à des médias corrects et pas juste à nos médias français. Quoi. Le The Intercept, c'est un média libre et radicalement libre sous pas mal d'aspects et que vous ne trouverez jamais une interview avec Omar Barghouti, par exemple, dans un journal français. Quoi. Un des premiers trucs qu'il fait souvent Greenwald dans ses podcasts là, c'est réfléchir à pourquoi c'est important le sujet et expliquer pourquoi, en tout cas pour lui, c'est important. Il explique qu'il y a des raisons morales, évidemment, de s'intéresser à la lutte des Palestiniens pour leurs droits, qui sont évidentes, enfin voilà, si vous croyez un peu à l'humanité. Et aussi qu'il y a des raisons, on pourrait dire, un petit peu plus nationales et locales, quoi, de s'y intéresser, parce que derrière ces raisons morales qui concernent, on pourrait dire, simplement la Palestine et Israël, les Palestiniens et les Israéliens, il y a la situation internationale et, entre autres, le soutien apporté par des gouvernements à la politique de colonisation, d'annexion israélienne. Entre autres, pour lui, donc américain, le gouvernement américain annonçait un plan d'aide financiero-militaire de 38 milliards, donc 4 milliards par an, 38 milliards sur 10 ans. Pour acheter des armes, pour continuer à construire la société sécuritaire en Israël, etc. Quand ton gouvernement, c'est le plus gros effort de soutien militaire, financier depuis la Seconde Guerre mondiale du gouvernement américain. Donc quand ton propre gouvernement soutient la politique d'Israël à ce point-là, ça te pose aussi des questions, disons, en tant qu'Américain, et évidemment, en France, on peut se poser la même question en tant que Français, Française. Il explique un peu après les enjeux de cette annexion, entre autres, la Cisjordanie, c'est du peu de territoire qui reste aux Palestiniens. On va pas dire libre, parce que c'est pas du tout libre, mais en tout cas qui ne fait pas partie formellement de l'État d'Israël. La Cisjordanie, c'est le seul endroit où on peut faire de la bouffe, faire pousser des choses. C'est pas dans la bande de Gaza, c'est dans la Cisjordanie. Donc ça veut dire que la bande de Gaza, qui est déjà un mouroir à ciel ouvert, en plus c'est la privée d'une partie de son autonomie au niveau de l'alimentation. Alors après voilà, ce qui l'intéresse là-dedans et ce dont il va discuter après avec Omar Barghouti, c'est la situation, on va dire, au niveau de la diplomatie internationale. Et donc ce dont il va parler là, c'est il va faire des comparaisons aussi avec les d'autres politiques d'annexion. Un des trucs qui va revenir extrêmement souvent comme comparaison, c'est l'annexion de la Crimée par la Russie. Et les sanctions, enfin voilà, les réactions que ça a provoquées au niveau international, pendant que visiblement l'annexion de la Cisjordanie ne provoque pas grand-chose. Ce qui est incomparable dans ces deux situations, c'est qu'en Crimée, il y a doute, si on veut appeler ça comme ça, sur la volonté de la population. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la population qui est russophone, qui s'identifie comme russe, et une autre partie absolument pas. Mais il y a un peu une question. Poutine avait mis ça en scène avec un référendum, enfin voilà. Tandis que pour les Palestiniens, il n'y a aucun doute sur la volonté de la population. Alors il se demande pourquoi, donc avec cette annexion, Israël risque les sanctions, risque d'être condamné encore plus que l'État l'est par la communauté internationale. Et pourquoi est-ce que ce mouvement d'annexion militaire arrive maintenant? Dans les raisons qu'il peut donner, il y a le Covid, la crise du Covid, on pourrait dire, et qui provoque un repli, on va dire, national. Et voilà, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour de nous, parce que notre priorité, c'est de ce qui va se passer pour nous, nos parents, enfin voilà, ce qui se passe dans notre coin de la Terre. Et c'est sans doute pas anodin que ça arrive maintenant, du coup. Il y a aussi Trump, qui parle de « carte blanche ». Le gouvernement israélien, par différents signes donnés par l'administration Trump, sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc au niveau des sanctions internationales, si les États-Unis sont derrière toi, quoi que tu fasses, et te financent et tout, c'est-à-dire que t'as pas grand-chose à craindre. Et après, il y a aussi les raisons, politico-politicardes. Netanyahou, c'est le premier ministre israélien qui se retrouve devant la justice pour des faits de corruption extrêmement graves. Il y a un effet de diversion, quoi, à jouer des muscles militaires. Et aussi, il joue sa survie politique parce que, bon, ça vous avez peut-être entendu, mais à chaque élection, en fait, on va dire sa base politique se réduit et il est obligé de faire des alliances de plus en plus étranges, on va dire. Sauf que si tu annexes la Cisjordanie, Israël va être condamné au niveau international et ça risque de ressouder en fait le pays autour de son gouvernement, quoi, disons, quel qu'il soit. Il va se demander où en est la société israélienne. Et bon, sa première réponse, c'est qu'elle a changé, entre autres sur les 20 dernières années. Mais en gros, le centre, ce qu'on appelle le centre, ici, politique, n'existe plus politiquement, n'est plus représenté. Tous les activistes pour la paix qui représentaient une frange non négligeable à un moment de l'expression politique israélienne n'existe plus non plus. Existe politiquement, hein, je veux dire, mais ne sont plus représentés, par exemple, à l'Assemblée. Et donc, l'ambiance politique, disons, ou la culture politique a changé. Pourquoi le gouvernement israélien se permet de faire ça, c'est aussi parce qu'il a des alliés en fait assez forts. Il parle de Glenn Greenwald actuellement réside au Brésil, donc il parle du Brésil de Bolsonaro, qui est première visite d'État de Bolsonaro, c'était à Netanyahou. Il parle de Trump évidemment, mais aussi des autres dictatures, Égypte, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Il évoque Le Pen aussi. En France, en tout cas, il y a des alliés politiques, quoi, internationaux, pour aussi faire ce qu'il veut et ne pas avoir peur de sanctions, machin. Après, il se dit quand même, il y aura forcément des conséquences, c'est-à-dire, donc Omar Barghouti, c'est un activiste de BDS, je ne sais pas si ça vous parle, boycott des investissements sanctions, donc en gros une campagne de sanctions, de boycott et de désinvestissement de l'État d'Israël pour condamner la politique coloniale, expansionniste, etc. de l'État d'Israël. Il semble évident que, donc aujourd'hui en France, hein, par exemple, donc par la voix des politiques comme Manuel Valls, Sarkozy, Macron, machin, le mouvement BDS, c'est des antisémites, extrémistes, islamo-gauchistes, enfin voilà. Tandis que, à force d'événements comme cette annexion de la Cisjordanie, on se demande jusqu'à quel point ce discours complètement farfelu va tenir, quoi. Parce que ça va être difficile de. Tu vois, par exemple, on a mis des sanctions à la Russie de Poutine qui a annexé la Crimée, et ne pas soutenir BDS pour la situation là de Israël, ça va devenir intenable. Bon voilà, ça c'est vite fait ce qu'il a raconté un peu tout seul. Tout ça se base sur des extraits de presse. Hein. Pour vous, il y a l'annexion de la Cisjordanie, hein, mais un autre exemple qui est pris pour donner un peu une idée de l'ambiance, il y a le fils de Netanyahou qui s'appelle Yair Netanyahou. Qui a donc publié une tribune, hein, qui affirme que, selon lui, Tel Aviv doit être, donc la capitale israélienne, doit être nettoyée ethniquement. Il ne doit rester à Tel Aviv que des juifs, ce qui fait penser à d'autres villes comme Varsovie dans l'histoire, enfin bref. Donc voilà l'ambiance politique un peu qu'essayait de présenter Greenwald. Et donc après, il est en live avec Omar Barghouti. Donc un des fondateurs de la campagne BDS et boycott des investissements, sanctions, et un activiste depuis une quarantaine d'années des droits des Palestiniens. Il a toujours des invités assez hallucinants, et là, avoir un 40 minutes comme ça pour causer avec Omar Barghouti, c'est vraiment génial. Alors il va lui poser plusieurs questions. D'abord sur la situation, donc cette histoire d'annexion au 1er juillet, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc Barghouti lui répond, bon, annexion, ça a c'est déjà fait. Là, c'est, bon, voilà, il s'agit d'annexer l'ensemble de la Cisjordanie, mais au final, des morceaux de la Cisjordanie sont annexés année après année, et c'est exactement la même chose. C'est pas tout d'un coup, mais voilà. Et ce sur quoi il va insister, qui est son cheval de bataille depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que l'État d'Israël a mis en place un régime d'apartheid. Donc au-delà d'annexer la Cisjordanie, il s'agit d'étendre le régime d'apartheid qui est le régime déjà dans l'État d'Israël à l'ensemble de la Cisjordanie, et donc avec les gens qui y habitent compris. Si on les épure pas ethniquement, comme demande le fils Netanyahou. On en revient aux questions quoi, que Greenwald posait au début quoi, de son podcast. Il lui demande à Barghouti toujours pourquoi Israël se permet de faire ça maintenant et malgré les risques disons politiques au niveau de la politique internationale que ça comporte. Donc ce qu'il répond, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, le gouvernement au gouvernement et à la Knesset, il n'y a plus de, lui dit, rationaliste sioniste. Donc de sionistes rationnels, donc de gens voilà, qui supportent l'État d'Israël, mais avec un peu de raison derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus que des fascistes. Il cite plusieurs exemples de ministres qui sont des fanatiques totales, quoi. Et aussi, il explique ça par le pouvoir pris par on va dire, la mouvance politique que représentent les colons, donc typiquement ceux qui sont déjà installés en Cisjordanie dans les colonies d'occupation. Et donc vraiment un changement, on va dire, de l'équilibre politique, quoi, comme en France, on pourrait parler de dérive de l'équilibre politique vers l'extrême droite. Enfin, c'est valable pour l'ensemble de la société. Mais après, la question qui va lui poser Greenwald, c'est puisque cette histoire d'annexion-là semble avoir déjà, avant que ça ait commencé, des conséquences sur l'opinion publique internationale. Vous voyez, il y a une tribune dans Libération d'hier, voilà, qui, bon, ça reste Libération, hein, le BDS n'est pas invité dans cette tribune, par exemple. Mais tout de même, quoi. Normalement, ça, il y a encore 3 mois, on n'aurait pas publié cette tribune parce qu'on aurait dit que c'était antisémite. Il y a 3 ans, Valls, Premier ministre, il y a 5 ans, le disait au nom de l'État, quoi. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sortent. Ils analysent un peu les médias américains aussi, mais de la même façon, le New York Times, qui n'aurait jamais parlé du mouvement BDS avant, écrit dessus, donne la parole. Il y a aussi le lobby qui défend les intérêts israéliens à Washington, qui s'appelle l'AIPAC, A-I-P-A-C, AIPAC, je ne sais pas comment dire, qui s'est exprimé sur cette annexion et donc en prenant position contre, hein, qui est quelque chose d'inimaginable aussi. Et donc la question qu'il lui pose, Greenwald, c'est est-ce que cette annexion, c'est entre guillemets un bénéfice tactique pour la lutte pour les droits des Palestiniens, ou bien est-ce que c'est une défaite politique, une de plus? Il fait une réponse Barghouti que j'aime bien, qui m'a fait rigoler, entre guillemets, c'est un peu rire jaune, mais il dit c'est la même question que de savoir si les white suprémacistes, donc les suprémacistes blancs aux États-Unis, seraient plus dangereux s'ils mettaient leur capuche du Ku Klux Klan. Voilà, c'est assez parlant, hein. Je pense on comprend que ça change pas grand-chose, et donc la question à laquelle ça revient, c'est est-ce que c'est grave, enfin est-ce que c'est mieux s'ils s'y prennent par petits bouts, voilà, comme les colonies d'occupation en Cisjordanie, ou bien si le gouvernement dit on va annexer la Cisjordanie, voilà, c'est comme ça, d'un seul coup et militairement, enfin... Ce qui répond, en gros, c'est que chaque coup porté met des choses en lumière, et que bon, voilà, un plus gros coup porté met plus de choses en lumière d'un coup. Il prend l'exemple des manifestations pour l'égalité, quelle que soit ta couleur de peau aux États-Unis, et de Trump, quoi. Et comment, voilà, entre Trump et les suprémacistes blancs qui s'affichent, on va dire, ils ont même un président, quoi, qui parle à leur place, et les gens qui s'organisent contre l'injustice raciale, quelque part, ouais, ça met beaucoup en lumière d'un coup, et donc peut-être ça explique aussi pourquoi ces manifestations, cette mobilisation, elle prend de l'importance maintenant, mais ça ne changerait pas grand-chose si c'était petit à petit, ou si Trump était moins outrancier, ou... Voilà. Ce qui... Après, la question au fond, qu'ils essayent de comprendre tous les deux, en tout cas, c'est aussi pourquoi l'État d'Israël agit comme ça. Parce que c'est ça, quoi. Aussi, tu peux voir le truc de l'autre côté. Est-ce que c'est un bénéfice tactique pour Israël, ou bien est-ce que c'est une connerie, on pourrait dire. Et ce qui répond, Barghouti, c'est... que l'État est « drunk with power », ivre de pouvoir, et en roue libre, quoi, on pourrait dire. Les exemples qu'il prend, c'est que il y a des ventes d'armes. Israël, par exemple, vend des armes à des régimes autoritaires, voire fascistes. On dit tout le temps « régime autoritaire », mais il y en a qui sont ouvertement fascistes, et voire antisémites. Ouvertement antisémite. Il cite un député de la Knesset, une députée, je crois, qui s'appelle, dont le nom de famille est Berko, je n'ai pas noté le prénom, à laquelle on a posé cette question. Est-ce que c'est cool de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ou des systèmes de contrôle à l'Inde de Modi, enfin voilà. Elle a répondu, ils sont antisémites, mais ils sont de notre côté. Bon, on comprend la contradiction qu'il y a là-dedans quand t'es l'État d'Israël. Les exemples qu'il prend, c'est les États qui soutiennent... dans les États qui soutiennent Israël, et donc fortement, hein, donc il y a le Brésil de Trump, il y a Orban, le Brésil de Bolsonaro, il y a Trump, l'Amérique de Trump, les États-Unis de Trump, il y a Orban, il y a Duterte aux Philippines, il y a Modi, et entre autres, Orban, Duterte, Modi, ceux-là sont vraiment fondamentalement antisémites, et je dis, assumer, ça fait partie de leur programme, et il faut pas être juif en Inde ou aux Philippines aujourd'hui, quoi. Ils en reviennent à la question, quoi, de est-ce que c'est un bénéfice par rapport à l'opinion internationale, ou est-ce que c'est une perte plutôt, on va dire, pour l'État sioniste. Et ce qu'il en pense, Barghouti, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables pour la diaspora. Ils mettent des photos où Ce qu'on voit, c'est que les membres de la diaspora juive, par exemple, se retrouvent en Hongrie avec des gens qui, au meeting de Orban, il y a des drapeaux d'Israël. Et donc, tu as un drapeau d'Israël à un meeting d'un gars qui va te sortir des trucs antisémites, et donc c'est la politique, enfin voilà. Pareil chez Modi, par exemple, où tu peux trouver des drapeaux d'Israël dans ses meetings, alors qu'il est ouvertement antisémite. Et que ça, c'est inacceptable pour la diaspora juive. Il y a un moment, il y a une contradiction entre être à un meeting antisémite et en même temps avoir un drapeau d'Israël. Le fond de sa pensée, c'est qu'il dit le gouvernement d'Israël ou les gens qui le supportent en Israël, ils ne lisent pas l'histoire et ils ne se rendent pas compte que tout ça, ça marche tant qu'il y a des Trump, des Modi, des Orban, etc. Mais que Trump, il ne sera pas toujours là, que Bolsonaro non plus, Modi non plus, enfin, j'espère. Et que le jour où ils ne sont plus là, ce qui leur servait d'appui pour faire ce qu'ils voulaient, exercer leur pouvoir comme ils voulaient, ne sera plus là, et que par contre, ils auront perdu l'opinion mainstream, il dit, hein, l'opinion populaire. Puisqu'on ne peut pas ne pas voir le côté antisémite qui va avec Orban ou Modi et le fait qu'ils sont associés à l'État d'Israël, que ce sont ses alliés politiques, quoi, ou géopolitiques. Ce qu'il dit aussi, c'est que le tabou, dans cette opinion populaire internationale, le tabou de la critique de l'État d'Israël, en gros, derrière, c'est le tabou antisémite, quoi, est en train de disparaître dans l'opinion internationale, Et que c'est ça, au fond, qui protégeait l'État d'Israël, pas les Trump et les Bolsonaro, c'est le fait que les populations que ces gens-là représentent, il y avait un tabou sur la critique de l'État d'Israël et de son action, qui est en train de disparaître à force de s'associer à des gens antisémites. Enfin, voilà, c'est assez logique. Alors, il revient sur la société israélienne et donc l'opinion populaire internationale, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qui se passe et sur cette notion d'apartheid. La semaine dernière, il y a un rapport de 47 experts de l'ONU qui ont, selon la définition qu'il y a quelque part dans les textes de l'ONU, de l'apartheid, désigner l'État d'Israël comme un État d'apartheid. Donc c'est encore une fois un retournement dans l'opinion internationale, parce que ça, c'était interdit de dire ça il y a encore, on va dire, 20 ans, quoi. Et donc la définition du système d'apartheid, c'est un système de domination raciale organisé, institutionnalisé, légalisé et qui se traduit par des crimes. Donc voilà, l'ONU, entre autres, il y a aussi un rapport de l'UE qui arrive à la même conclusion, conclut que l'organisation de l'État d'Israël en fait un État d'apartheid. Il y a 65, ce qui rajoute Barghouti, c'est qu'il y a 65 lois racistes dans les lois d'Israël. Déjà, elles sont toutes assez... récentes, enfin pas toutes, mais la plupart sont assez récentes, et sont des lois vraiment racistes sur l'accès au logement, l'accès aux terres, l'accès aux soins, etc., l'accès au travail, et qui sont dans la loi. Et au-delà d'être dans la loi, correspondent à un système organisé, mis en place au quotidien par l'État, et se traduisant par des crimes. Voilà, la dernière question qu'il lui pose, c'est à propos du coronavirus. Le coronavirus, c'était assez flippant, entre autres pour la bande de Gaza, donc qui est complètement isolée du monde, qui n'a plus d'hôpitaux depuis qu'Israël les a bombardés, qui n'a plus aucune infrastructure, parce que dès qu'ils construisent quelque chose, ils se font bombarder. Et donc,
y compris quand c'est construit avec des fonds européens, sans que jamais l'Europe demande réparation.
Donc, assez flippant, quoi, pour le coronavirus. Alors, il explique que, c'est ce qu'on avait pu entendre, hein, heureusement, le virus ne s'est pas tant que ça répandu dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Mais par contre, il explique aussi le niveau de... de stress, si on peut, le mot semble un peu faible, mais par rapport à ça, parce que par contre, si le virus arrive et commence à se répandre, là, ils sont morts. Ils parlent de coronaracisme. Et voilà, ça semble un mot assez courant quoi, dans la société palestinienne. Les exemples, et donc il reprend encore des exemples de type apartheid sur cet exemple-là particulier, mais donc un peu comme partout, l'État a dû informer sa population des risques, les gestes barrières, enfin voilà, etc. Et le matériel pour ça n'est pas de la même qualité en hébreu et en arabe. En gros, en arabe, c'est pas clair, c'est incompréhensible, voilà. Tandis qu'en hébreu, c'est bon. Il parle aussi des travailleurs, parce que c'est aussi un système d'exploitation des Palestiniens pour le travail. Donc en Cisjordanie, par exemple, voilà, pour aller bosser dans les territoires israéliens, il faut passer les checkpoints, les barrières, machin. Et si t'as le malheur d'avoir 38 de fièvre quand t'essayes de rentrer, bah, tu seras refoulé, donc tu perds ton travail déjà. Et en plus de ça, sans soins, enfin, sans qu'on s'occupe de toi, alors que si t'es du côté hébreu et que t'es hébreu, que t'es israélien, juif, tu seras soigné, enfin voilà, comme partout dans le monde, enfin comme à d'autres endroits dans le monde. Il prend un dernier exemple, c'est que donc c'est en Cisjordanie là, pas dans la bande de Gaza, je crois. Vu que justement les autorités ne s'occupaient pas de la population arabe, il y a une clinique improvisée Covid quoi qui s'est montée. Donc j'imagine pour s'occuper des gens infectés, et puis aussi peut-être pour isoler des personnes suspectées d'être infectées, etc. Et Israël l'a, pas bombardé, mais détruit, quoi, rasé. Donc ils n'ont même pas le droit de s'organiser eux-mêmes, quoi, disons. Voilà, donc c'est comme ça que se conclut l'interview. J'ai essayé de vous la faire un peu à la hache. Hein. Ça dure une heure à peu près les podcasts là, de The Intercept. En tout cas, ceux-là, là, System Update avec Glenn Greenwald. Je vous invite à aller le regarder en entier. C'est assez rare ce genre de témoignage. Voilà, en plus en live avec un vrai journaliste qui pose des bonne question, qui donne tout le contexte. Et là, il y a. Bon, après, il y a une urgence politique à agir, que ce soit pour la cause palestinienne, vu d'un point de vue lointain, disons, ou sur nos propres gouvernements, parce que, évidemment, tout ce qui est discuté là entre Barghouti et Greenwald, en tant que citoyen américain, pourrait être discuté de la même façon entre un Barghouti et un citoyen français.
Merci. Nous avons reçu un message de manière anonyme que nous allons vous diffuser.
Prêt ?
C'est parti.
Une boîte à bouffe a été enlevée. Ceci est une alerte enlèvement à l'attention de la mairie de Brest. Alerte enlèvement, dans la matinée du vendredi 19 juin, une équipe de serial cleaners se serait emparée de la boîte à bouffe Place Guérin. Cette boîte, grâce à l'entraide et la solidarité spontanée du quartier, permet à des gens de manger. Ceci est une alerte enlèvement à l'attention de la mairie de Brest. Veuillez la redéposer en état à l'endroit où vous l'avez prise, dans les plus brefs délais. On a faim.
Ouais, donc peut-être on peut rappeler que juste à la sortie du confinement, il y a une boîte à bouffe qui avait été déposée Place Garde. L'idée étant que les personnes sont libres d'y poser des choses ou d'en prendre de manière à faire un peu de partage alimentaire, quoi. Et donc vendredi matin, cette boîte a disparu de la Place Garde. Les gens n'ayant pas trop vu à quel moment, ça a dû être fait assez tôt. Mais par contre, on a vu qu'il y avait des nouvelles poubelles des nouvelles poubelles céréales cleaner sur la place et que plusieurs choses avaient été changées, dont les bacs à compost. Donc il semblerait que la ville ait décidé, en cleanant la place, de virer la boîte à dons alimentaires. C'est... En fait, disons que cette attaque de la mairie, qui semble venir de la mairie, c'est aussi, pour les personnes qui l'utilisaient, un message comme quoi, faut pas vous autogérer, faut pas, l'entraide spontanée n'est pas acceptée. Si vous voulez de la bouffe, vous avez qu'à aller dans les organismes de charité. Cuyande parlait d'épicerie sociale dans son programme. Et donc, tout ce qui est spontané et qui vient en autonomie des gens du quartier, ça, on n'en veut pas. Il y a quand même une petite enquête qui a été faite auprès des différentes personnes du quartier, des commerçants, pour savoir un peu ce qu'ils avaient vu ou entendu. Donc, comme je disais, personne n'a vu à quel moment elle a été enlevée. Et du coup, il y a une personne du quartier qui a décidé d'appeler la mairie pour savoir ce qu'il en était. Et on va entendre son coup de fil.
Bonjour madame, je vous appelle parce que je suis habitant sur le quartier de la place Guérin.
Ah oui.
Et il y avait une boîte à dons alimentaires.
Qui vous m'avez déjà appelé pour ce sujet, effectivement. Elle n'est toujours pas revenue, quoi.
Non, elle n'est pas revenue. Et moi, j'aurais voulu savoir si c'était vos services qui s'en étaient occupés de débarrasser cette boîte. C'était une boîte qui était à côté d'une autre boîte à dons.
D'accord.
Bah c'était une boîte, c'est l'équivalent d'une petite armoire, quoi. Oui, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que votre collègue vous a expliqué la raison?
Il y avait une histoire de boîte à dons.
Oui, ouais, c'est ça.
Laquelle boîte à dons?
Alors, il y a une boîte à dons historique sur la place Guérin où les gens viennent déposer des affaires. Et là, il y avait une boîte à dons où il y avait du don alimentaire.
Ouais.
Donc, on pouvait se servir. Non, elle est plus là depuis vendredi. Et on a demandé un petit peu sur la place et personne n'a vu.
Je suis incapable de vous dire, c'est une association qui avait lancé une idée là, qui s'en va. Moi, je suis pas au courant. Elle a disparu. Vous l'apprenez. Mais c'était pas une question mairie, hein. C'était un truc un petit peu par-dessus.
Parce que. Est-ce que vous savez, c'est vous qui l'avez enlevé?
Ah non, j'ai rien vu.
Ah non, je veux dire pas vous personnellement, mais...
Moi, j'ai un agent pour activité sur le secteur, je n'ai fait aucune demande par rapport à ça.
D'accord.
Donc, je ne sais pas qui a pu l'enlever. Je sais qu'il y a eu pas mal de débordements ces derniers temps, ça, je veux dire.
Ouais. D'accord. 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 Ok, bah, je vous remercie.
Bah, je vous en prie.
Et bonne journée. Au revoir.
Bah, je vous en prie.
Donc voilà, donc il y avait déjà un coup de fil qui avait été passé le vendredi soir, où là, la personne avait dit que tous les agents étaient sur le terrain, donc ils ne pouvaient pas se renseigner. Et donc là, la personne qui visiblement n'est pas au courant, mais quand même a un nom d'association et une adresse mail qui était dans la boîte. Donc c'est étonnant, comme s'ils lisaient un document qu'ils avaient dans la boîte, mais c'est pas eux qui l'ont récupéré. C'est assez étrange. Toujours est-il que donc cette boîte a été enlevée, que c'était une boîte qui était utile pour le quartier, qui a marché à partir du moment où elle a été déposée, qui était utilisée par tout le monde pour aussi bien déposer que prendre de l'alimentaire, et que la mairie décide que ça ne doit pas être, et l'enlève, puisque voilà, ça a été fait comme il le dit par-dessus la jambe, même s'il finit pas sa phrase. Mais le message est passé, quoi, et nous on a un message à faire passer aussi, c'est que bah, en fait, vous pouvez bien l'enlever, on en remettra. Qu'on n'a pas besoin de demander une quelconque autorisation à la mairie, elle n'a rien à nous autoriser. On sait que c'est nécessaire, on sait qu'il faut la poser, donc vous pouvez les enlever, on continuera de les remettre. Et voire même si vous pouvez la redonner en état et rapidement, comme le disait le message, ce sera encore mieux, ça nous ferait gagner un peu de temps. Ça éviterait d'avoir à en reconstruire plein et plusieurs d'avance pour être sûr qu'il y en a toujours une.
Plusieurs d'avance, ouais.
Ce serait pas mal, hein. Et donc, en tout cas, le quartier, les gens du quartier, les personnes qui l'utilisent sont déter à en refaire et à continuer et... Sans avoir besoin de l'opinion de personnes qui sont dans leur bureau et qui comprennent même pas pourquoi il y a ce genre de choses qui apparaissent dans les quartiers. Je pense que c'était un peu le message à faire passer aujourd'hui.
On fait une petite pause musicale.
Ouais, donc peut-être juste les récupérates, ça continue toujours.
Il y a toujours les récupérates qui partagent les glanages qui font qui sont faits le dimanche à 17h. Ça, même sans la boîte, ça continuera.
Et on va faire une petite...
We'll be right back. possible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peur est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. Le braqueur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu là, sais bosser souvent partout. Est une chose honorable.
Vas-y, casse-toi de là,
faites commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît.
Tout stupide.
Quoi? Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Oui, j'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir bouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête. Me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate. Mais tu mérites et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite. Mais en revanche, n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites. Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes. Je ne sais pas, acrobate, avocate ou marionnette. Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Brun, ténébreux, mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux et proche des miséreux. Pense à la guerre, à l'effet de serre, entre midi et deux. Pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux. Adore toujours tout le monde face à la caméra. Derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat. Mesdames et messieurs, veuillez célébrer la chanson française vieille et décérébrée. Décroulant, encombrant, camé, encombré d'un public de mémé qui fait canevas et macramé. Has-been à la peine que l'échec a puni, mais qui tente tout de même leur chance aux États-Unis. Cessez les retours ratés, les textes formatés. Arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été. Et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude François, Joe Dassin, putain, y'en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Quoi? Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire.
Tu veux chanter? C'est un projet qui est sûr, ça. T'es sûr de toi sur cette affaire? Pourquoi, par exemple, t'irais pas plutôt t'empaler sur une poutre ou te pendre à un pylône ou, je sais pas, parler à une porte ou chante, vas-y, chante, mais ferme la bouche. Ouais, chante en fermant la bouche, je te promets, c'est possible, je l'ai fait une fois, c'était il y a longtemps, mais vas-y, fais. Ha! Apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire.